My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs des Enfants du Nouveau Monde. On se retrouve ce mois-ci pour parler de notre relation aux animaux, sujet que l'on a déjà abordé avec une personne qui communique avec les animaux. Là, aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Claire Morin, qui est accompagnatrice en bien-être via un animal en particulier, c'est le cheval. Effectivement, le cheval, c'est un animal particulier dans le lien aux humains, et nous allons voir en quoi il peut être vraiment un compagnon guérisseur et qui nous aide dans la connaissance de nous-mêmes. Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci de m'accueillir chez toi. Alors toi, en fait, tu as eu une relation donc depuis toujours avec le cheval, depuis tes 6 ans.
Oui, tout à fait.
Et c'est la relation au cheval a été assez initiatique dans ton parcours.
Absolument. J'ai démarré de manière assez classique dans les poney clubs du Bois de Vincennes à côté de Paris. Et depuis ma toute petite enfance, les chevaux sont des guide sur mon chemin. Alors ça a commencé de manière très traditionnelle par de l'équitation, jusqu'à même devenir monitrice d'équitation, avec beaucoup de compétitions, de choses qui passaient beaucoup par le sport et le faire, et en même temps ce côté très envahissant et très passionnant de fait, tous les gens qui aiment l'équitation sont en général des gens très investis dans leur passion. Et au fil de mon histoire avec eux, ils m'ont amené sur des chemins que je n'aurais jamais soupçonnés, puisque j'étais dans un milieu assez traditionnel et conventionnel. Et ils m'ont ouvert les voies d'une vie nouvelle au niveau de la connaissance de moi-même, de la spiritualité et d'une vision en fait du monde. Et c'est devenu vraiment une vocation et une mission de vie de pouvoir transmettre, moi, mon vécu et cette expérience initiatique, de dire voilà comment les chevaux, quand on les écoute, dans les messages qu'ils nous envoient, peuvent vraiment devenir des guides sur le chemin de la connaissance de notre être profond.
Alors, comment t'en es arrivé là? Les premières choses, c'était de te poser des questions en termes d'éthique par rapport à ce monde de l'équitation classique, etc. T'as commencé à te poser des questions sur le cheval, sur...
En fait, c'était la rencontre avec un cheval. Moi, je pense que... c'est pour ça que je dis... Je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas de hasard, mais à l'époque, j'étais surtout dans la compétition et à faire des compétitions de saut d'obstacles et de concours complets. Et il se trouve que j'ai acheté un jeune cheval avec lequel on a été assez en conflit relationnel parce que apparemment son idée n'était pas du tout de devenir un cheval de concours. Et c'était embêtant parce que je l'avais payé très cher, j'avais beaucoup investi sur lui, et lui apparemment sauter des barres c'était pas son truc. Et j'ai eu la chance à l'époque, j'étais en Dordogne, d'avoir dans mon centre équestre une jeune femme qui arrivait de la région parisienne et qui m'a dit bah écoute, moi à Paris j'ai rencontré un Américain qui s'appelle Pat Parelli. C'est les fameux chuchoteurs qui arrivaient en France à l'époque avec le film.
Qui chuchotent à l'oreille
voilà,
des chevaux.
Et absolument. Et elle m'a dit, bah, peut-être que ça pourrait t'aider avec ton cheval qui était devenu vraiment absolument arrêtif et immontable. Et effectivement, on a organisé ensemble un stage donc d'équitation qu'on appelle aujourd'hui éthologique ou comportementale, où on apprend à communiquer vraiment avec son cheval et à avoir une relation différente basée sur la compréhension mutuelle, la coopération, la confiance, le respect. Et je me suis retrouvée, avec 20 ans d'équitation derrière moi, déjà monitrice diplômée, en me disant je ne sais rien de ce qu'un cheval. Mmh. Donc c'était, j'étais en même temps très en colère et en même temps fascinée de me dire, bah voilà, c'est des perspectives complètement nouvelles. Et avec ces nouvelles méthodes, j'ai travaillé mon cheval en cachette de mes élèves pendant plusieurs mois, en me disant, s'ils me voient faire ça, ils vont me prendre pour une cinglée. Jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, mon cheval ait vraiment beaucoup changé. Et là, c'est à l'inverse, je me dis, je peux pas continuer à leur raconter.
Tu faisais quoi, par exemple? Tu peux nous raconter à nous?
Et ben, on arrête de monter sur les chevaux avant d'avoir obtenu vraiment une connexion très forte à pied. Donc, le cheval, avant de pouvoir monter sur le cheval doit nous suivre partout sans être attaché, réaliser des exercices qui ressemblent à des jeux en fait que les chevaux font entre eux dans la nature. Donc il s'agit d'établir en fait une relation de confiance et de leadership partagé. Et seulement quand on a atteint un certain seuil en fait d'apprentissage, on peut remonter sur le cheval, mais là avec beaucoup moins de contraintes. C'est-à-dire que on oublie les morts coercitifs, les choses. Voilà, ouais. On est vraiment dans une communication
de confiance.
Avec la compréhension. Alors avec ce cheval, c'était particulièrement difficile parce que lui, il avait un passif, donc on a eu quand même des difficultés à trouver une stratégie commune. Et aujourd'hui, bah, il est sur le domaine de Kantaka avec moi. Il va avoir 21 ans et voilà. Et c'est un cheval qui est merveilleux et qui a changé toute ma vie parce que je me suis à ce moment-là aussi aperçu que si je voulais changer l'autre, en l'occurrence obtenir un comportement différent d'un cheval, mais ça peut être d'un individu, la première chose que je devais faire, c'est changer moi mon comportement, éventuellement ma manière de lui expliquer les choses. Et ça a été le début d'un chemin et d'une recherche sur moi-même. Et tu parlais d'éthique par rapport aux chevaux, et après c'est vraiment les recherches en éthologie scientifique, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une nouvelle science autour des chevaux qui s'est développée dans une science universitaire. Hein. On a beaucoup d'études depuis 20 ans sur les méthodes d'apprentissage des chevaux, les conditions d'hébergement, l'éthique et le mieux-être, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui étaient faites de manière empirique de père en fils, parce que c'est comme ça qu'on fait avec les chevaux, on les met dans les box parce que c'est pratique pour les humains, et qui sont vraiment maintenant remises en question par les scientifiques. Et on sait que pour le bien-être du cheval, il est nécessaire qu'il puisse avoir des conditions de vie qui soient proches de son état naturel d'animal de proie nomade, c'est-à-dire manger 16 heures sur 24 et pas en 3 repas de 2 minutes, pouvoir se déplacer et surtout vraiment avoir des relations sociales, c'est-à-dire qu'un cheval qui vit isolé ne peut pas avoir un équilibre mental et émotionnel, ça n'existe pas. C'est vraiment des animaux qui sont extrêmement sociaux, et grâce à cela, on peut aussi utiliser leur intelligence sociale et émotionnelle pour pouvoir en faire vraiment une source d'inspiration, d'un modèle en fait presque social de société non prédatrice. C'est très très intéressant d'observer les chevaux en liberté, en passant du temps à pas forcément leur demander de faire des choses, mais juste recevoir l'enseignement et la guidance. Ils nous font déjà ce cadeau là.
Oui, ça demande vraiment de revoir notre positionnement, hein, vis-à-vis de l'animal en général, et particulièrement du cheval. Alors aujourd'hui, après donc un long parcours de développement personnel, d'évolution aussi dans ta pratique, dans ta relation avec le cheval, cette espèce de révélation qu'a été pour toi l'équitation comportementale, éthologique, etc., tu es en train de créer un domaine dans lequel tu as tes chevaux et tu proposes tout un tas de prestations qui, on va dire, la ligne conductrice, c'est l'accompagnement de l'être sur la voie du cheval. Donc ça passe par toutes sortes d'ateliers, de journées thématiques, de stages, etc. L'idée là, c'est justement d'offrir aux personnes ce contact avec le cheval, et toi, à ce moment-là, tu deviens médiatrice finalement pour que la personne puisse avoir la chance d'entrer en lien avec le cheval et justement qu'il devienne un guide.
C'est vrai que la plupart des gens qui viennent dans les centres équestres faire de l'équitation, ils viennent avant tout pour le cheval. Et après, le fait de monter à cheval, c'est très agréable. Ça peut. Mais les personnes sont attirées vraiment par cet animal parce qu'ils ont sûrement l'intuition qu'il peut apporter beaucoup. Et donc moi, j'ai fait ce choix aujourd'hui, même si l'équitation, c'est formidable, de ne plus forcément passer par l'équitation pour offrir la possibilité aux personnes d'accéder, ce que j'appelle la voie du cheval, donc c'est vraiment cet enseignement. Donc effectivement, comme tu le disais, ça peut être sous forme de séances individuelles avec des besoins spécifiques, pour des gens tout à fait comme toi et moi, ou des personnes qui sont en situation plus de difficultés relationnelles, sociales, ou des moments de vie. Donc là, il y a un accompagnement personnalisé qui va se faire avec l'accompagnement du cheval. Il y a des mises en situation. Tous les exercices se font à pied. Ou si c'est à cheval, c'est vraiment dans le bercement et dans quelque chose qui est plus dans la sensation que dans le faire-faire. Il n'y a pas nécessité de connaître les chevaux ou l'équitation, il n'y a pas de prérequis particuliers. Et bien sûr, tout ce qui est atelier collectif, donc on démarre par des ateliers de 3 heures qui ont en général des thèmes. Donc ça peut être, on travaille beaucoup avec la nature, la connexion à la nature. Donc moi j'aime bien aussi les cycles de la vie. Donc on peut travailler par exemple, chaque fois s'il y a une pleine lune qui tombe dans un week-end, j'aime bien organiser une séance avec les chevaux, avec l'énergie de la lune, souvent en soirée parce que c'est magnifique et qu'on rien que d'être dans le troupeau de nuit, dans un endroit en pleine nature, c'est un cadeau magnifique. Et les changements aussi de saison, parce que les chevaux sont intégrés dans un univers naturel, donc on célébrera l'équinoxe le 17 mars en présence des chevaux. Et également des journées, voilà, souvent c'est le samedi, un samedi par mois, où on va pouvoir, de manière ponctuelle ou régulière, venir faire un travail complet d'accompagnement par le cheval, où là on va plus aborder des thématiques autour de l'intelligence émotionnelle, de comment le cheval peut nous enseigner à mieux gérer nos émotions, à mieux les intégrer dans nos vies, à mieux savoir comment utiliser les émotions comme une information. Et tout ce qui est de l'ordre aussi de la communication relationnelle. C'est-à-dire que les chevaux sont vraiment des maîtres en matière de nous apprendre à se positionner par rapport à autrui, avec ce que le fameux maître Pat Parrini enseigne, c'est trouver une attitude de fermeté bienveillante. On apprend ça aussi en communication non violente, de pouvoir en même temps se positionner, poser des limites, parce que les chevaux sont des animaux qui ont de la force. J'en ai certains qui sont très grands, qui sont dans chiens de sport. Donc, il ne s'agit pas d'être juste béni oui-oui et dire « Oui, mon petit chéri, tu as tous les droits », mais juste trouver ce respect mutuel et ce positionnement qui passe beaucoup, beaucoup par le langage du corps et la sensation corporelle. On a souvent oublié, nous, dans nos civilisations, puis aussi parce qu'on a le langage verbal et beaucoup l'intellectuel et les pensées, de passer toujours par le lien au corps. Et les chevaux nous ramènent beaucoup, beaucoup à ce travail de l'intelligence du corps.
Comment on incarne notre intention et ce qu'on souhaite,
etc. Absolument, le travail sur l'intention, tu as vraiment le souligné, est très important. C'est pas forcément toujours facile à enseigner et à transmettre, mais comment la puissance de notre intention, de notre ce qu'on appelle aussi le focus, peut avoir avec les chevaux, c'est juste magique. Quand t'as une intention claire, c'est pour ça que des fois on a l'impression, les grands dresseurs qui ont ça naturellement, on a l'impression qu'il se passe rien, que c'est juste par magie, mais c'est parce qu'on incarne vraiment un but, un objectif, tout en étant pas focalisé sur le résultat, parce qu'on va attacher plus d'importance aux moyens et à la sensation d'arriver au résultat qu'au résultat lui-même, ce qui fait la différence avec l'équitation traditionnelle, où même s'il n'y a pas forcément de brutalité, de malveillance, on va primer le résultat.
Etc.
Là, on sort vraiment du résultat pour privilégier la sensation. Si le résultat est là, c'est qu'on va être complètement aligné, cohérent et congruent entre ce que l'on exprime et ce que l'on est à l'intérieur. Donc, c'est un chemin de vie et voilà, d'une recherche. Quand je fais le lien avec la spiritualité, c'est que pour moi, c'est de la méditation active au quotidien.
C'était Lorina McKennitt avec Caravan Serai dans Les Enfants du Nouveau Monde. Et si le cheval pouvait être notre guide spirituel sur la voie de la connaissance de soi? C'est ce que propose Claire Morin avec Cavalescence sur un domaine situé à 15 minutes de Sommières.
Comment ça se manifeste? Le cheval devient alors un miroir, c'est ça? De ce que nous incarnons, bien, moins bien, là où nos intentions sont claires, moins claires, là où on n'ose pas forcément se positionner alors qu'on devrait. Comment ça se passe, du coup, dans la relation au cheval?
Il est absolument miroir, mais miroir bienveillant. Et parce que lui, il n'a pas de masque social. Que vous soyez PDG, ouvrier, jeune, vieux, beau, moche, mal habillé ou pas, ça lui passe vraiment au-dessus de la tête. Ce qu'il va sentir, c'est vraiment qui vous êtes à l'intérieur,
oui.
Au-delà du masque social et du moi construit. Donc il va être très sensible à cette ce qu'on appelle congruence, c'est-à-dire que ce que vous exprimez soit en adéquation avec ce que vous êtes à l'intérieur, notamment au niveau émotionnel.
D'accord.
C'est-à-dire ce qui est traditionnellement enseigné dans les centres équestres, par exemple... Laissez vos problèmes à l'entrée du manège ou ne lui montre pas que tu as peur. Ça n'existe pas avec un cheval. Pouvoir croire.
C'est une erreur.
Eh ben oui, parce que pouvoir imaginer que le cheval ne ressent pas votre peur ou ne sent pas votre colère,
c'est
juste
de la naïveté.
Voilà. Donc c'est sûr que c'est plus facile pour le cheval d'être en relation avec quelqu'un qui n'a pas peur, parce qu'il va se sentir insécure avec quelqu'un qui a peur. Néanmoins, si c'est la peur qui vous habite,
oui.
C'est mieux de venir avec et dire moi aujourd'hui là. J'ai peur parce que je me sens vulnérable, parce que je sens que j'ai besoin de sortir de ma zone de confort et il y a quelque chose qui va se passer, ou c'est nouveau, ou simplement je me suis fâchée avec mon mari, mon patron, et j'arrive dans un état de stress.
Donc, ou tout simplement,
non,
tu es un...
Je mets un couvercle dessus, mais regardez en fait où ça se passe dans mon corps, qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement, et souvent, quand on arrive avec ça, le cheval, il va nous délivrer un message pour aller dépasser la situation et trouver d'autres stratégies, d'autres ressources.
D'accord. Et alors, ce message-là, c'est les personnes qui le comprennent de façon assez intuitive ou c'est justement là que toi, tu interviens en tant qu'un peu traductrice, on va dire?
Voilà, ou... bah oui,
c'est
moi, je suis
un mélange des deux, j'imagine.
Facilitatrice de la mise en relation. Donc, c'est sûr que moi, dans les formations que j'ai reçues, que ce soit en thérapie rogerienne, Carl Rogers, ou en communication non violente, j'attache beaucoup d'importance à penser que chaque personne a la ressource en elle de trouver son propre chemin, et je suis vraiment accompagnatrice et pas sauveuse ou là pour donner des solutions aux personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Néanmoins, c'est moi qui vais organiser et poser le cadre de la mise en relation avec le cheval, ne serait-ce que parce qu'il faut assurer la sécurité, surtout si ce sont des personnes qui ne connaissent pas les chevaux. Donc moi, les chevaux me connaissent très bien, ils ont l'habitude de travailler avec des personnes novices ou pas. Et donc moi, je pose le cadre et je mets des structures en place. Donc ça peut être des petits exercices très simples ou des propositions de contexte, de méditation, de respiration, d'exercices de pleine conscience corporelle. Et à ce moment-là, j'amène la personne à faire ses propres prises de conscience, mais aussi, bien sûr, avec bien, je peux la guider à interpréter un comportement, en se méfiant quand même de l'interprétation, parce que c'est sujet à débat. Mais des fois, en général, ça se fait de manière naturelle. C'est, en même temps, j'adore en parler, et c'est parfois difficile, parce que souvent, les gens me disent « Mais qu'est-ce qu'on fait dans les séances ou qu'est-ce qu'on fait dans les stages ?» Alors, évidemment, vous pouvez aller visiter mon site internet, j'explique plein de choses.
Bah d'ailleurs, on va en profiter tout de suite pour le donner. Ouais. C'est cavalessence.com. Donc, caval, c'est A-V-A-L, apostrophe, essence, comme l'essence de l'être, .com. Voilà. Et quand les personnes te disent, mais qu'est-ce qui se passe
en stage? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans les stages? Comme je parle, bien sûr, j'ai des exercices, j'ai préparé mes ateliers, j'ai des thématiques. Et en même temps, c'est vraiment les chevaux
qui vont décider.
Dans l'instant présent, nous font des propositions.
Ok.
Et ça, c'est vraiment souvent assez magique. Et ça peut aussi permettre de travailler en conscience, notamment au niveau de l'éthique. Parce que si mon discours, c'est de sortir du faire-faire avec le cheval, néanmoins, j'ai bien conscience que moi-même, j'utilise les chevaux pour autre chose que l'équitation. Mais néanmoins, je les mets au service des humains pour... Et qu'est-ce qui se passe quand le cheval ne veut pas, ou que c'est l'été, qu'il y a des mouches et qu'on est mieux à l'ombre que d'aller faire une séance, etc. Et du coup, ça permet peut-être de prendre la décision de dire bah ok, c'est comme quand ton enfant il a pas envie d'aller à l'école le matin, on trouve une petite motivation, etc. On dit pas forcément oui mon chéri reste là, mais en tout cas les décisions qu'on prend, on met de la conscience dessus, de dire voilà, c'est pas l'animal qui est à ma disposition et j'en use et j'en abuse, c'est juste voilà, il y a des situations et on trouve des compromis dans l'aménagement de dire ok, peut-être on va travailler à une heure différente, ou on va changer l'espace de travail, ou travailler avec un autre cheval que celui qu'on avait prévu a priori.
Oui,
donc ça, on laisse vraiment la place au vivant, à ce qui se présente,
à l'écoute et au respect.
Et le rythme. C'est vrai que les chevaux ont une relation au temps qui est complètement différente de la nôtre, et que nous on est dans une société où on est dans la course des choses à faire, du rythme social, et
c'est
voilà,
un paradoxe, nous sommes plus dans la course que les chevaux.
Exactement. Et les chevaux, ils nous amènent vraiment, et rien que ça, c'est vraiment un cadeau si on peut se permettre de s'accorder ce moment hors temps, comme une méditation où le temps des chevaux n'est pas le temps horaire, de vivre le moment présent. J'ai un stage complet d'un week-end sur vivre le moment présent, qui sont des exercices de pleine conscience, de dire voilà, je goûte mon environnement, je suis pleinement à ce que je fais et dans un rythme qui n'est pas forcément celui du temps horloge. Et c'est vrai que du coup, moi, je ne peux plus rentrer dans le format des séances d'équitation d'une heure ou quoi, où je me dis c'est trop calibré. Et des fois, les gens, ils rentrent dans le rond de longe.
Ils rentrent dans
le rond de longe, c'est l'espace où on fait les...
circulaire.
Circulaire, comme un espace sacré des possibilités où on travaille. Et le cheval délivre un message. Et peut-être, au bout de 5 minutes, il ressort en disant... ça y est, j'ai ma réponse, et on fait autre chose après. Mais donc le temps, il est extensible dans les deux sens, quoi. Et pour moi, c'est vraiment très important de pouvoir accueillir ça et de se laisser la souplesse de s'adapter. Et c'est pour ça que quand on a la chance de pouvoir travailler sur les stages plus longs, c'est chouette parce qu'on est au rythme des chevaux.
Alors peut-être que tu pourrais nous donner quelques exemples de ce sur quoi le cheval nous amène à travailler, ce sur quoi il nous fait miroir de nous-mêmes. On en a parlé tout à l'heure hors micro et effectivement il y a tout un modèle en fait du monde du cheval qui vit en groupe dans une société, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est non prédatrice. Toi tu dis c'est un leadership partagé, c'est-à-dire qu'en fait chacun a son rôle dans le troupeau et que du coup ça peut nous aider aussi nous à expérimenter certains rôles que parfois on a du mal à prendre dans la vie et qui pourtant seraient adaptés à certaines situations, puisque au-delà de nous coller une étiquette de dire telle personne elle est un peu trop soumise ou telle personne elle est un peu trop dominante ou telle personne elle est un peu trop ceci ou cela, l'idée c'est de pouvoir être mobile d'un rôle à l'autre et d'une qualité à l'autre en fonction des situations de nos vies.
Absolument. En fait, les chevaux, ils ont une organisation sociale assez stable avec donc des rôles déterminés. Et par exemple, on va distinguer le rôle du dominant de celui du leader. Et souvent, en fait, il y a une confusion dans les humains.
C'est très intéressant, ça.
Et en fait, le dominant, c'est plus un individu qui va accéder de manière prioritaire aux ressources rares. Donc, il boit en premier, il mange en premier, il pousse un peu tout le monde. Mais en contrepartie, il assure aussi la sécurité. Souvent, comme il a accès à la ressource sexuelle, c'est souvent un étalon, enfin un individu un peu alpha. Et du coup, il va plutôt pousser. Donc, il va guider le troupeau par l'arrière, mais sur quelque chose d'assez ferme, voire brutal. Néanmoins, il va avoir vraiment un rôle important au niveau de la sécurité du groupe, parce qu'il est capable de prendre des décisions de manière tranchée, parfois brutale, mais la contrepartie, c'est que des fois, ça assure vraiment la survie, quoi. C'est nécessaire. Donc,
contrairement,
sans diaboliser ce rôle, il peut être intéressant de savoir comment l'utiliser ponctuellement pour se mettre en sécurité, par exemple. A contrario, le leader, c'est souvent un individu... si c'est un troupeau mixte naturel, ça sera plutôt une vieille jument avec beaucoup d'expérience qui, elle, va, comme son nom l'indique en anglais, leader, c'est le guide, hein, donc elle va plutôt être devant et emmener le reste du troupeau à la recherche d'un nouvel endroit. Donc c'est elle qui gère les changements de lieu, l'heure où on va dormir, manger. Voilà, c'est assez maternant comme manière de fonctionner. La contrepartie, par exemple, ça peut être que souvent les leaders très éclairés, ils partent devant. Et puis, ils laissent le troupeau à la traîne et puis ils oublient, vous savez, les gens très visionnaires.
Là tu parles des humains.
Voilà.
Parce que chez les chevaux, ça se passe
pas comme
ça.
Mais donc, il n'y a pas forcément que des avantages ou que des inconvénients dans chaque rôle.
Oui.
Et là, on va vraiment apprendre à identifier les rôles. Dans l'observation du troupeau, on va dire, à votre avis, dans ce troupeau-là, qui incarne quel rôle, etc. Et après, dans les exercices de mise en situation avec les chevaux, on va aller chercher à incarner ces différents rôles avec les chevaux. Donc, par exemple, si je vous fais un exercice d'exercer la dominance avec un cheval qui est lui-même dominant, c'est un exercice très avancé, on ne fait pas ça dans les stages d'introduction. Ça va chercher une ressource justement sur la qualité de l'intention, parce que trouver comment faire face en restant dans la non-violence,
c'est ça,
mais en allant chercher une ressource vraiment de grande fermeté, c'est très très impliquant. Et la différence justement, c'est que souvent les gens ils ont du mal avec cet exercice là parce qu'il est extrêmement difficile, c'est de comprendre en fait que la différence entre, pour le cheval en tout cas, entre la fermeté et la violence, ça va être non pas le niveau d'intensité qu'on va mettre, mais le moment où on va relâcher la pression. C'est-à-dire que, par exemple, si le cheval refuse obstinément de faire un pas en avant ou en arrière et que je commence à mettre de la pression, éventuellement, on utilise quelque chose qui s'appelle un stick qui ressemble un petit peu à un fouet, mais on tape pas le cheval avec, c'est plus pour bouger l'énergie autour. Et si je commence à vraiment m'engager physiquement là,
dans
et que le cheval commence à faire avoir la moindre intention de bouger, même s'il n'a pas effectué l'exercice à 100%, je vais récompenser l'intention d'écouter par un relâchement total. C'est-à-dire que je ne veux pas exiger l'exercice parfait, mais je vais, à chaque phase de l'apprentissage, je veux dire, ok, si déjà, par exemple, je voudrais qu'il galope, mais déjà, il est immobile, et si déjà, il se met au pas, je ne vais pas dire continue jusqu'au oui. galop, je vais déjà récompenser le petit effort. Mm-hmm. Et le cheval, le fait de sentir qu'en même temps, j'ai une qualité d'intention mais que déterminée, mais que je suis capable de lâcher sur les petites phases, et surtout de remercier à ça. Chaque phase l'effort fait, et bien en fait, à chaque fois, je gagne des points de confiance, mm-hmm. donc je gagne aussi des points de respect mutuel, et les deux notions, en fait, elles montent de manière concomitante et pas en opposition. Mm. Souvent, en fait, dans l'équitation, les notions de confiance et de respect, elles s'opposent, c'est-à-dire que les chevaux très confiants et qui n'ont pas peur de l'humain, ils sont un peu mal élevés, c'est un peu caricatural, mm-hmm. mais mm-hmm. ils bousculent, ils font oui. un peu les salés, en gros, les sales yes. gosses, quoi. Oui, oui. On dit, oh, il est gentil, mais pas très bien élevé, il n'est pas respectueux. Et à l'inverse, les chevaux très bien dressés, voilà, de compétition, etc. Alors eux, ils savent tout faire, mais il y a un drapeau qui vole ou un parapluie qui s'ouvre, c'est panique à bord parce qu'ils ont un niveau de confiance très faible, parce qu'ils sont éduqués souvent avec une forme de coercition qui est basée par la technique.
Oui, un peu trop d'autorité, quoi.
Ah, voilà. L'autorité. Donc là, on travaille vraiment sur la notion d'autorité juste, mm-hmm. qu'on appelle en coaching d'entreprise l'assertivité. C'est comment trouver une forme d'autorité qui passe par la justesse. Et c'est pas juste dire tout le temps oui. Mm. On peut faire un stage entier comme en CNV sur dire et entendre un non, poser les limites, parce que les chevaux nous amènent vraiment à travailler là-dessus. Ne serait-ce que parce que moi, je vois par exemple, je ne fais presque plus d'équitation avec mes chevaux. Néanmoins, j'ai un troupeau à gérer. Je leur impose des limites géographiques parce que quand ils vont chez le voisin n'est pas très content de se faire manger ses cultures. Et puis, je suis responsable de ceux que j'ai apprivoisés. Donc, s'il y a des soins vétérinaires, ils doivent accepter de rester attachés, de voyager éventuellement dans un camion pour aller, de donner les sabots pour le maréchal Ferrand. Donc, il y a des bases d'éducation qui interrogent aussi sur la relation éducative. Mm-hmm. C'est-à-dire que, est-ce que la vie sauvage... C'est bien, oui, je pense que les chevaux sont très heureux quand ils vivent sauvages, mais s'ils sont blessés et qu'ils ne sont pas manipulés, eh ben, c'est la fin. Alors que si c'est un animal domestique, en l'occurrence, moi j'adore mes chevaux, s'il y a un pépin de santé, qu'ils soient suffisamment manipulés pour pouvoir aller recevoir les soins d'un vétérinaire. C'est toujours, moi j'aime bien cette idée de voie du milieu et de trouver un équilibre pour respecter en même temps les valeurs d'éthique et de nature. Et en même temps, être dans une situation où on les a apprivoisés, domestiqués, et on doit aussi, en cela, être responsable.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Riobat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert, vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer, vous êtes les saisons et nous sommes la terre, vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme, et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs, et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélanger de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert, vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh.
grains de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume.
Oh 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 oh, 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 oh.
Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Zaz, dans Les Enfants du Nouveau Monde, avec on ira à Kantaka par exemple, écouter les murmures des chevaux avec Claire Morin.
C'est peut-être le moment de parler de cette méthode que tu co-animes, co-enseignes, qui s'appelle Epona Quest, qui vient d'un livre qui s'appelle Le Tao du Cheval. Peut-être citer aussi que tu proposes de l'équi-coaching, c'est-à-dire du coaching pour les entreprises, pour les organisations, pour travailler sur la cohésion d'équipe, la confiance en soi, la notion de leadership, on l'a dit. Voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à...
Voilà, l'équi-coaching, on a un peu parlé sur le terme d'intelligence émotionnelle et l'assertivité, donc c'est vrai que c'est plus à destination des équipes. Mais pour revenir à Epona Quest, c'est vrai que ça fait 8 ans que j'ai la chance de co-animer avec un équithérapeute, une personne qui est médecin homéopathe en région parisienne et qui a été formée aux États-Unis par une femme qui s'appelle Linda Kohanoff, qui a écrit un best-seller qui s'appelle Le Tao du Cheval, enfin best-seller dans le milieu de...
Oui.
En tout cas, c'est une personne qui est pionnière dans l'apprentissage facilité par le cheval, puisqu'elle utilise ce terme-là, et qui a surtout développé l'aspect spirituel de la relation au cheval, et cette notion un petit peu d'âme-groupe que le cheval aujourd'hui dans nos sociétés, plus de raison d'être comme avant, où ça a été un animal qui nous a... amené vers la civilisation. On l'a utilisé pour l'attraction animale, pour se déplacer, pour l'agriculture, pour la guerre. Il a été à notre service. Maintenant, à travers les sports équestres et le loisir, il reste présent dans nos sociétés et de plus en plus, parce qu'on voit l'engouement pour l'équitation, hein, qui est quand même la 3e fédération sportive de France.
Ah oui,
oui. Et oui, quand même, il n'y a pas beaucoup d'équitation à la télé, mais c'est au niveau nombre de licenciés, avec 85% de femmes dans les pratiquantes.
C'est un animal qui attire.
Voilà, et donc le cheval pour Linda Kohanoff, et je partage à 100% ce postulat, et rester dans nos vies parce qu'il a une mission qui est cette mission aussi de nous élever. Alors on peut passer par l'équitation déjà, rien que le fait de sortir les pieds, enfin de décoller les pieds de la terre et de se laisser porter par un autre être, c'est symboliquement très fort. Et il y a beaucoup d'archétypes liés à la relation au cheval, et le cheval est en même temps très ancré dans cette réalité qu'on a évoquée d'animal qui peut être dominant, qui peut faire peur aussi. Et en même temps qu'il y a une extrême sensibilité, une extrême intuition, et qui nous emmène vers ces voies spirituelles des chemins de connaissance de soi. Et donc dans les stages avec Sylvain, on développe ces thématiques et notamment d'une manière très détaillée toute la charte en fait des émotions qui est déclinée par rapport au fait que les chevaux utilisent les émotions comme une information. Voilà, donc on aura plusieurs stages Epona, un stage d'introduction et un stage avancé qui auront lieu donc sur le domaine de Kantaka à Montmira dans l'été. Et également un cursus de chamanisme avec le cheval où là on fera sonner les tambours à chaque saison pour se reconnecter au peuple cheval et à la nature. Avec une jeune femme incroyable qui fait des soins holistiques et qui a une formation chamanique. Elle communique aussi avec tous les règnes animaux, végétaux, minéraux, donc en pleine nature, on va expérimenter ça. Et également, pour terminer, un cursus orienté plus vers justement l'énergétique et par le mouvement, donc en lien avec la danse improvisation et le tai chi, avec une praticienne qui s'appelle Caroline Lagouge et qui est une chorégraphe et danseuse formidable qui est elle-même propriétaire d'un cheval. Et là, on expérimente comment le mouvement mutuel et l'énergie mise en mouvement peut influencer sur les chevaux. Donc, c'est en individuel et en groupe. Donc, c'est pas de la danse chorégraphiée. même si ça peut être très intéressant. Donc on n'est pas dans pareil dans le, on va pas, c'est pas du spectacle équestre, c'est vraiment
de l'expérimentation.
Et moi, c'est important pour moi de travailler en pleine nature, et j'ai la chance là d'avoir trouvé un espace, un petit écrin protégé qui va accueillir toutes les activités de cavalescence là à partir de, du printemps.
Alors ce lieu, il s'appelle donc le domaine Kantaka. Kantaka, c'était le nom du cheval du Bouddha. Ouais. Et alors c'est un très joli nom hein, pour ton domaine, qui fait le lien justement entre le monde du cheval et le monde de la spiritualité. Le cheval qui a porté le Bouddha s'appelait Kantaka, voilà. Donc ça sera là, c'est le nom de ton domaine, qui se situe entre Montmira et Moulaisan. C'est à 15 minutes de Sommières, et là-bas tu as donc 10 hectares avec bientôt 10 chevaux. C'est un projet donc où tu mets en place tout un système le plus respectueux possible pour les chevaux, pour qu'ils se nourrissent, pour qu'ils puissent se déplacer tout en respectant l'écosystème local et qu'ils ne transforment pas ce lieu en désert très rapidement.
Absolument.
Ce qui est le cas souvent quand on met des chevaux sur un lieu, il y a très vite plus rien du tout et plus que de la poussière. Donc là, tu es vraiment en réflexion sur tout ça. Et puis, donc voilà, un lieu géré de façon écologique. Vous pouvez en savoir plus encore une fois en tapant cavalescence.com. Moi, je te propose qu'on y aille. Et que tu me présentes tes chevaux.
Oui, mes compagnons, mes partenaires à part entière, hein, c'est les membres de l'équipe de Cavalescence, même si je suis amenée parfois aussi à travailler avec des gens qui ont leur propre cheval. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à partir du mois de février, même si les installations sont en cours. En tout cas, rien que la nature sauvage en bordure du Bois des Lances et la beauté du paysage et des lumières et du troupeau de chevaux accueillants et bienveillants qui vous accueilleront sur leur terre, parce que maintenant voilà, c'est eux les propriétaires du lieu. Donc on y va avec
toi. Allez,
il se régale hein.
Oh là là,
il avait une grosse
faim. Alors lui, il est
c'est un glouton, hein.
C'est un glouton, c'est un cheval de concours de très haut niveau que j'ai récupéré en Seine-et-Marne il y a 10 ans. Il a démarré sa carrière avec un cavalier professionnel jusqu'à niveau championnat du monde. Et puis après, il était vendu à un amateur qui l'a un peu confondu avec sa BMW et qui pensait qu'il disait ce cheval est con parce que c'est un cheval très introverti. C'est un hypersensible introverti. Et donc, en fait, il est difficile à cerner parce qu'il est souvent renfrogné. Et en fait, il ne se comprenait vraiment pas. Et le cheval est devenu dangereux, quoi. Moi, quand je l'ai récupéré, il avait l'étiquette cheval dangereux. Et je l'ai récupéré pour être parlé vraiment très crûment, parce que c'est le jargon, le prix de la viande, quoi. C'est-à-dire le prix du cheval de boucherie. Et puis voilà, et c'est un super cheval d'école, il est adorable. Par contre, je pense qu'il a eu un très très mauvais vécu de jeune cheval. C'est-à-dire que je pense que comme il avait un très bon pédigré et tout ça, il a été sevré de manière précoce, c'est-à-dire séparé de sa mère dans des conditions pas très éthiques. Et c'est un cheval qui a assez mauvaise intelligence relationnelle. Il est très dominant, il a une relation à la nourriture qui est pathologique. C'est-à-dire que... Il a toujours peur de manquer de nourriture. Et avec les autres, c'est compliqué, ses relations avec les autres, parce que je pense qu'il a été privé de relations sociales pendant toute son enfance. Quoi. Pas son enfance, ses jeunes années. Et c'est vraiment important hein, pour l'équilibre des chevaux, comme pour nous, hein, toute la période de l'éducation en groupe. Et ça, c'est pareil que ça évolue énormément. Hein. Même les éleveurs, maintenant... tiennent compte des études éthologiques pour avoir des conditions de sevrage et d'éducation des jeunes chevaux qui soient
respectueuses.
Oui, aussi parce que c'est après source de performance.
Oui, c'est tout à fait, bien sûr. Un cheval qui va bien, c'est un cheval qui va être plus facile.
Exactement. Lui, il a vraiment des angoisses de séparation terribles qui ont fait qu'à un moment, avec un cavalier professionnel très très compétent, ça allait, mais avec un amateur, il n'arrivait pas à compenser les problèmes. Du caractère du cheval. Quoi.
Comment il s'appelle, lui ?
Alors, il s'appelle Tipi. C'est le grand de la bande. Voilà. Et donc, il a 23 ans. Alors, ça commence à être un âge... c'est pas un vieux cheval, mais ça commence à être un âge avancé.
Et lui, c'est notre ancêtre du troupeau. C'est Borromé. C'est un cheval... Il a l'apparence extérieure d'un cheval. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est autre chose qu'un cheval. C'est un peu difficile à exprimer.
Un chameau
Non, plutôt un grand maître spirituel. Alors là, je suis si Bouddha et Takantaka, je pense qu'il doit être à l'intérieur de Borromé. C'est quelque chose... Lui, c'est vraiment un cheval guérisseur. Il a une puissance incroyable. Et je l'ai récupéré quand j'étais jeune monitrice, quand je cherchais un cheval de compétition, quand je suis allée essayer, il m'a fait tomber par terre. Et puis, je sais pas, il y a eu un truc qui faisait qu'il fallait quand même que je le ramène à la maison. Il a eu des gros problèmes de santé, je pensais pas qu'il ferait un vieux cheval. Et puis là, il a décidé de rester encore parmi nous. Alors, on en prend soin parce qu'il commence à avoir moins de facilité pour manger. C'est pour ça que... Il est un petit peu maigre et tout, mais dans les stages, il a une vraie qualité de présence et il veut toujours, même s'il y a des exercices qu'il ne peut plus faire parce qu'il ne veut plus courir et tout, mais il veut toujours être présent et puis en général, les gens
l'apprécient
énormément parce que c'est un cheval qui a une extrême douceur, mais qui est en même temps très déterminé sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.
Mmh. Donc voilà. Un bon maître.
Absolument.
Et quel âge il a ?
Il a 29 ans.
Ah oui, quand même, voilà. Un bel âge.
Donc ça commence à atteindre un petit peu la gériatrie. Mais en fait, c'est compliqué l'âge des chevaux parce que c'est souvent aussi les conditions de vie, d'hébergement et le sport qui les usent prématurément parce que dans la nature, ils pourraient vivre assez vieux. Maintenant aussi, avec les soins qu'on donne aux chevaux, il y a facilement des chevaux qui atteignent la quarantaine. Hein. Alors qu'avant... hop là. Donc là, on voit nettement que Tipeee, il pousse. Donc on parlait du dominant tout à l'heure. Celui qui pousse l'autre pour accéder à la nourriture. Mm-hmm. Et donc là, on va les attraper pour les rentrer. Et après, on va distribuer.
Il attrape son sang et le secoue désespérément.
Voilà, donc là, on va les ramener dans la pâture et distribuer le foin.
Mm-hmm, pardon.
Voilà. Viens, vous remets. Viens, papidou. Hop, hop. Hop, hop. Tiens, Jacou. Tiens, Borromé. Il fait beau. Place.
Ils sont beaux. Ils s'amusent, là. Ils partent au galop et tout.
Là, c'est...
Ils ont mangé, ils ont de l'eau, on s'occupe d'eux, ils sont contents.
Voilà. Puis cette magnifique lumière, là, ici... Donc là, ils ont 2,5 hectares de prairie. Enfin, prairie, il n'y a plus trop d'herbe parce qu'ils sont depuis 2 mois. Mais il y a une grande clairière au bout, il y a du bois. Donc ils partent explorer, manger les arbouses. Ils arrivent à quand même avoir une alimentation assez diversifiée. Et ils mangent les petits gras de cul, là, le petit cynorhodon. Mm-hmm,
le cynorhodon, c'est bon pour eux.
Ouais, ça fait le petit drainage.
Ils font le plein de vitamine C. Voilà,
exactement.
Et la vue est sublime, on a droit à un magnifique coucher de soleil, des couleurs orangées, avec des jeux de nuages bleus, roses, oranges, avec un petit croissant de lune charmant. Voilà.
retour sur le domaine de Cantaca avec Claire Morin de Cavalescence et ses chevaux. Pour joindre Claire Morin et participer à l'un de ses stages, vous pouvez lui téléphoner au 06 81 77 29 14 ou bien tout simplement aller sur son site internet cavalescence.com.
Donc là on va distribuer le foin. Pour l'instant on est encore au stade de la distribution parce que je ne suis pas encore en place vu que je suis en installation avec les nouveaux modes de distribution où on donne plutôt en slow feeding, c'est à volonté mais dans des filets qui permettent que les chevaux ne se remplissent pas trop vite le ventre mais respectent un rythme naturel. Et puis de toute façon on le distribue et on va, tu vas voir, on va en fait beaucoup répartir.
Ah, sur tout leur, sur leur domaine.
Sur le domaine, comme ça, ça permet de les obliger un petit peu à marcher, balader, à circuler. Sinon, bah, ils stagnent et ils font que manger. Mm-hmm. Ce qu'ils font malheureusement la plupart du temps dans les paddocks où ils sont quand il n'y a pas beaucoup d'espace vital.
Ils jouent là.
Voilà, il fait un peu le, c'est un peu des jeux. Il y a la distribution de la nourriture qui est en cours et que c'est assez hiérarchique en fait, l'ordre d'accès à la nourriture, bah, ils se font bouger les uns les autres mutuellement. Et on voit que le dominant, lui, il bouge pas, il fait bouger les autres.
Bah ça te fait du sport hein, de trimballer tes brouettes
tous les
jours.
Ah ouais,
je vais
pas à la salle de gym, je continue pas besoin, à pratiquer le yoga quand même parce que ça me fait du bien.
Ça détend les muscles aussi, hein, j'imagine.
Voilà. Mais par contre, le reste c'est pas nécessaire. Regarde ce ciel, c'est juste un cadeau, waouh. Donc là, quand j'ai visité ce terrain, que je suis venue là, je me suis dit, oh là, cette clairière, elle a pas l'air d'être dans la propriété, mais... elle a peur de servir à grand chose non plus, donc j'irai sûrement pour faire des ateliers ou battre le tambour, etc. Et puis finalement, après en regardant mieux le plan...
elle fait vraiment partie du terrain.
Et du coup, c'est, je me suis dit, je me lâche. Pourtant, je suis pas tellement, je n'ai pas le sens aigu de la propriété, mais là je me dis, là c'est ma clairière.
Ta clairière de rêve.
Voilà. Et voilà, et...
un petit trou au milieu de la forêt.
Voilà, il y a un grand chêne blanc au bout qui nous garde un peu, là. Et c'est vrai que moi, je suis assez, finalement, je connais très bien les chevaux, mais je suis assez novice, finalement, en agriculture. Ça va être ma première installation. Et j'ai vraiment à cœur de me former en permaculture, en agroforesterie, et de pouvoir vraiment préserver... surtout dans la région, on a la chance d'avoir des arbres ici. Ce qui n'est pas si...
courant.
C'est courant.
Oui,
et j'ai vraiment à cœur de prendre soin de ce lieu, quoi, parce que je sens que c'est là une clé pour moi. Ouais, ça m'émeut même d'en parler, tu vois, parce que je sens que le lieu m'a choisi, quoi. C'est puissant et c'est les chevaux et le lieu qui vont me dire maintenant ce que j'ai à faire et où je dois mettre. Après, il y a tout l'aspect législatif des permis et tout ça, mais je me dis que voilà, je vais prendre le temps aussi de réfléchir où implanter quoi, en étant en même temps soucieuse du bien-être des humains qui vont venir, mais aussi de voilà, ce qui est nécessaire pour l'endroit. Beaucoup de gratitude d'avoir pu... accéder enfin à ce lieu, à un lieu déjà, et ici. Voilà, on continue. Bon bah voilà, ils ont eu à boire, à manger, on a surveillé qu'il n'y avait pas
de blessures,
de bobos, de difficultés, tout le monde est en pleine forme et on reviendra demain matin au lever du jour. C'est bien et du coup c'est vrai que
évidemment, ça peut paraître un contraignant comme rythme, et en même temps, c'est un cadeau aussi de pouvoir vivre au rythme de la nature et des cycles des saisons. Moi, j'adore le fait qu'il y ait des saisons et des journées de longueurs différentes et pouvoir... voilà. Quand il pleut, des fois, je dis « Oh, c'est dur, je sais qu'il faut de la pluie pour la nature, mais... » Voilà, et puis comme j'ai habité pendant 25 ans à Paris et que mon premier métier, je ne l'aimais pas du tout et que je pleurais dans ma voiture, bah, quand je râle parce qu'il pleut, bah, je me relie à mon ancienne vie et j'ai l'impression de vivre mon rêve d'enfant. Et du coup, voilà, c'est ça un peu que j'ai envie de partager, de dire, voilà, oser vivre ses rêves. Et voilà, et moi, quand j'étais petite fille, je me disais que j'aurais une ferme avec plein d'animaux. Et voilà, j'ai pas encore plein d'animaux, mais en tout cas, j'ai des chevaux et c'est un accomplissement.
Voilà. Merci Claire pour ces beaux partages.
Merci Céline Elodie, c'était tellement sympa de partager ça avec toi. Et puis voilà.
Bah, au plaisir de revenir passer du temps.
À maintenant, il faut expérimenter parce que tout ça, les paroles, c'est bien, c'est mais ça. Le vivre, c'est encore mieux.
Ah ouais, bah,
bienvenue en tout cas quand
merci,
tu veux.
Merci, merci.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.